D'où tenais-je ce goût des hommes, si vifs, si tôt venus? Était-ce de les avoir entendus siffler sur les échafaudages? D'avoir associé épaules cuivrées et bonheur de vivre? D'avoir reçu des œillades de soleil renvoyées par les miroirs accrochés aux fenêtres quand les hommes, bol au creux des mains, menton enneigé de splendeur, se rasaient sur les trottoirs du dimanche? Ou d'avoir été la première à étreiner les joues parfumées de mon père? Mon monde de petite fille était divisé. Les hommes étaient du côté ensoleillé de la vie, et les femmes, elles, à l'ombre du raisonnable, dans les couleurs demi-deuil des devoirs. Je ne savais pas que ce goût serait difficile à vivre, et encore plus difficile à assumer. Il illumina mon enfance et se heurta brusquement au monde réel. Je venais d'entrer en classe de terminale quand un homme rencontré dans un mariage m'embrasa comme une allumette d'un baiser dans la nuit. Prit l'habitude de venir me chercher en voiture à la sortie du lycée et m'épousa. J'étais impressionné. Pourquoi moi? Geoffrey n'avait pas trouvé les mots pour parler de ce mystère. Rien n'était comme dans les livres. Je rêvais au grand Maulne, à la femme renarde de Marie Webb. J'aimais le lycée, le latin, le grec, les mathématiques et les vacances. Tout baigné dans une douce irréalité. Je savais ce qu'était une Vénus Callipyge, une Hétaïre grecque, une courtisane de la Rome antique. Mais j'ignorais tout de l'amour et de la sexualité, que je découvrais à 17 ans dans la hantise terrible, celle de tomber enceinte. M'opposer au mariage? J'avais essayé. Autant se mettre en travers d'un lourd chartil en marche. Mieux valait prendre la main tendue et se laisser hisser. Dedans, dans le moelleux du foin, cela ressemblait presque au bonheur, et ma tristesse bien serrée dans la robe de mariée était invisible aux autres, et sans aucune valeur à mes yeux. Geoffrey était instituteur, avait 10 ans de plus que moi, et rêvait d'un poste double. Je passais mon baccalauréat et me retrouvais en septembre dans une école au milieu des champs, devant une vingtaine d'enfants de 8 à 14 ans, qui se rangèrent d'eux-mêmes devant moi. Une grande fille aux yeux tristes et à la joue de vin se plaça au milieu des plus jeunes, les dépassant de deux têtes. Je ne voyais qu'elle. Elle ne savait pas lire. Les grands mystères tristes de l'enfance à la peine m'étaient jusqu'à ce jour restés insoupçonnés. Un jour, plus tard, j'irai vers eux, mais ce n'était pas l'heure. Au premier froid de l'automne, je tombais enceinte. Mariée, ma hantise ne m'avait pas protégée et ne s'était pas effacée par miracle. Elle avait de longues racines. Un premier enfant, puis un deuxième bientôt. Tout allait si vite. À ma nouvelle condition, je n'étais pas préparée. En réalité, si, elle ressemblait tellement à la vie ordinaire. J'eus besoin de Geoffrey pour tout. Je m'entortillais comme une liane autour de sa force. Mais l'amour, où était l'amour? Il me semblait que j'avais raté des chapitres, ceux des plus belles années de la vie.
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine à portée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé cette brindille qui ne ressemblait pas du tout aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença à préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée.
Je me réveille à peine. Oh, je vous demande pardon. Oh, je suis encore toute décoiffée.
Le petit prince alors ne put retenir son admiration. Oh, que vous êtes belle!
N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil.
Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas très modeste. Mais elle était si émouvante.
C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ?
Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur.
Vous avez vu mes épines ? Elles sont terribles. Il peut venir les tigres avec leurs griffes.
Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe.
Ah, mais je ne suis pas une herbe.
Pardonnez-moi.
Je ne crains pas les tigres. Mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ?
Horreur des courants d'air ? Ce n'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée.
Et puis, le soir, vous me mettrez sous un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens...
Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous la forme d'une graine. Elle n'avait donc rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort.
Et alors ce paravent ?
J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé eût dû m'attendrir. Je n'ai rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais sans doute trop jeune pour savoir l'aimer. Au moment du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais il le ramena aussi. Car comme il disait lui-même... On ne sait jamais. Il arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de baobab. Il croyait ne devoir jamais revenir. Tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, » dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume.
« J'ai été sotte, » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. »
Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme.
« Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. »«
Mais le vent... »«
Oh, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. »«
Mais les bêtes... »«
Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles, si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite ? Tu seras loin, toi ?» Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. « Oh, ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir, mais va-t'en. »
Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse.
Dans la maison de mon enfance vivait un intrus. À l'extérieur, tout le monde croyait que la famille Schmitt comptait quatre membres. Deux parents, deux rejetons, alors que cinq personnes habitaient notre domicile. L'intrus occupait le salon en permanence. Il y dormait, il éveillait, râleur, immobile, importun. Accaparés par leurs tâches, les adultes l'ignoraient, sauf parfois ma mère qui, agacée, intervenait afin qu'il restât propre. Ma sœur, seule, entretenait une relation avec le fâcheux en le réveillant chaque jour vers midi, ce à quoi il réagissait bruyamment. Moi, je le haïssais. Ses grondements, son air lugubre, sa carrure austère, son aspect renfermé me rebutaient. Le soir, au fond de mon lit, je priais souvent pour son départ. Depuis quand résidait-il parmi nous? Je l'avais toujours vu là, incrusté. Brun, trapu, obèse, couvert de taches, l'ivoire des dents jaunies, il passait du mutisme sournois au vacarme tapageur. Lorsque mon aîné lui consacrait du temps, je courais me réfugier dans ma chambre où je chantonnais, mains sur les oreilles, soucieux de me soustraire à leur dialogue. Sitôt que j'entrais au salon, le contournant avec suspicion, je lui lançais un regard intimidateur pour qu'il demeurât à sa place et comprît que l'amitié de nous ne nous unirait jamais. Lui feignait de ne pas me remarquer. Nous nous évitions avec un tel acharnement que notre défi en pesait l'atmosphère. Le long des soirées, il écoutait nos conversations sans commenter, ce qui m'horripilait que moi, tant mes parents avaient l'habitude de sa présence obtuse. L'intrus s'appelait Schoenmeyer et c'était un piano droit. Notre famille se refilait ce parasite depuis 3 générations.